Mohamed Bazoum, bonjour.
Bonjour.
Depuis un an et demi, une loi réprime le trafic de migrants, mais est-ce que ça marche ?
Oui, cette loi date de 2015, mais nous l'avons mise rigoureusement en œuvre à partir du deuxième semestre de l'année 2016. Et depuis lors, les statistiques indiquent très clairement qu'elle a eu un impact très positif sur les flux de migrants qui entrent au Niger, mais surtout qui en partent en direction de la Libye et même de l'Algérie.
Alors aujourd'hui, les passeurs tombent sous le coup de la loi, mais je crois que seuls 72 d'entre eux ont été condamnés.
Oui, il y a eu presque 200 personnes qui ont été arrêtées, qui ont été inculpées, mais 72 ont été finalement condamnées pour le moment. Et vous en avez encore d'autres qui restent en prison en attente de jugement.
Mais n'est-ce pas une goutte d'eau par rapport aux quelques 6000 personnes qui vivraient du trafic de migrants dans la région d'Agadez ?
Aux 6000 personnes, ce n'est pas des chiffres très précis, mais il est difficile que 6000 personnes tombent sous l'infraction d'activité illégale. Il s'agit surtout des plus actifs et les personnes prises en flagrant délit. Nous n'arrêtons en général que les personnes prises dans le cadre d'activités qui constituent vraiment une infraction. Quand on parle de 6-5 000 personnes, il s'agit de tous ceux qui détiennent un petit restaurant et qui vendent de la nourriture, qui peut être de la nourriture vendue à des migrants, ça pourrait être des gens qui ont des motos qui servent à transporter des personnes et qui transportent aussi, le cas échéant, des migrants, et ainsi de suite.
N'y a-t-il pas des complices parmi les forces de l'ordre et la loi n'est-elle pas trop indulgente à leur égard ?
Non, elle n'est pas indulgente parce que nous avons eu à révoquer des gendarmes et des policiers tout simplement.
Mais personne n'a été condamné parmi les membres des forces de l'ordre.
7 ou 8 gendarmes au moins ont été révoqués tout simplement. C'est pire qu'une condamnation pour eux.
Les passeurs, les transporteurs, les rabatteurs, qu'on appelle aussi les coxeurs, il y a donc des milliers de personnes qui vivent de ce trafic. Quelle est la solution pour ces personnes ? Est-ce la reconversion ?
Oui, c'est ce que nous essayons d'entreprendre avec nos partenaires à La Valette, à la conférence de La Valette. Le président de la République a présenté un plan de reconversion au profit de toutes ces personnes qui vivent des activités liées au trafic illicite de migrants. Un fonds fiduciaire d'urgence a été mis en place à cet effet. Un certain nombre de projets sont mis en œuvre en ce moment à Agadez, dans cette zone.
Oui, mais les activités nouvelles seront toujours moins rémunératrices, non ?
On n'en sait rien. Vous savez, la migration illicite ne date pas de toujours dans la région d'Agadez. Elle date d'il y a quelques années. Et il n'était pas non plus dit que ça devait être une activité pérenne qui s'étalerait sur toute la vie d'une personne jeune qui a besoin de faire autre chose que de se livrer à une activité par ailleurs illicite.
Et quelles sont ces nouvelles activités ?
Il y a le projet de développement classique, notamment la promotion de l'agriculture, de l'élevage, du commerce. Nous avons une centrale électrique qui va être construite à Agadez, qui est une centrale hybride. Ce sont des projets, je vous ai dit, classiques. Nous avons surtout en urgence des petits projets qui théoriquement concerneraient à terme 5000 personnes et qui visent à donner, à offrir des opportunités d'activité à toutes les personnes qui sont censément impliquées dans le trafic illicite et qui en vivent de façon directe ou indirecte. Nous avons déjà une phase pilote qui aura concerné 400 personnes. Puis, à partir de l'évaluation que nous en ferons, nous l'étendrons le cas échéant et nous pensons que nous aurions des ressources à même de toucher 5000 personnes en théorie.
Alors, face à toutes les mesures que vous prenez, certains humanitaires restent sceptiques et disent que même si les contrôles sont renforcés, eh bien, les passeurs empruntent de nouvelles routes qui échappent à toute surveillance.
C'est difficile de le dire, d'autant plus de le soutenir, à mon avis. Sur la région d'Agadez, je ne vois pas comment on pourrait contourner les axes sur lesquels nous avons accru notre contrôle. Ce n'est pas possible tout simplement parce que la géographie vers la Libye se présente sous une forme telle que il est difficile d'échapper à nos postes de contrôle en les contournant littéralement, en ayant d'autres chemins qui conduiraient à la Libye. Mais évidemment, nous n'aurons jamais assez de moyens, même sur les axes que nous contrôlons, d'assurer un contrôle absolu. Et il y a toujours, par conséquent, des choses qui passe à travers les mailles de notre filet. Nous ne sommes pas naïfs.
Selon les statistiques de l'OIM, il y avait avant quelques 5000 migrants par semaine à Agadez. Il y en aurait aujourd'hui quelques 5000 par mois. Ça reste un chiffre considérable, non ?
Non, ce n'est pas vrai. Je recule ces statistiques de l'OIM. Elle ne peut pas les soutenir devant moi. Nous collaborons de façon très étroite sur le poste d'entrée dans la ville d'Agadez. Le dernier poste qui est celui d'Abalak, qui conduit à la ville d'Agadez. Lorsque nous avons mis en place notre dispositif, nous avions à peu près 350 personnes par jour qui entrent dans la ville d'Agadez. Aujourd'hui, nous avons une centaine de migrants, tout au plus 120 personnes par semaine. 100 personnes en moyenne par semaine, ça ne donne pas 5000 par mois. Ça donne 5 x 4, 400 personnes par mois. Voilà de quoi il s'agit.
Alors, il y a un problème spécifique, c'est celui des réfugiés darfouris qui viennent donc du Soudan et qui sont passés par la Libye avant d'arriver chez vous, à Agadez. Combien sont-ils et est-il prévu de leur accorder asile ?
Ils sont à peu près au nombre de 2000. Ces personnes ont été attirées par le battage qui a été fait par les médias sur des possibilités de création de postes de recensement du HCR dans la ville d'Agadez. Ils sont devenus un vrai problème pour les autorités de la ville d'Agadez. Ils ont un statut que nous ne maîtrisons pas, que le HCR ne maîtrise pas davantage. Eux, ils viennent en se présentant comme étant des réfugiés, à même de bénéficier des perspectives de réintégration en Europe. Lorsque leurs cas sont étudiés de façon individuelle, ils ne remplissent pas ces critères-là et nous les avons sur les bras dans la ville d'Agadez aujourd'hui.
Et que vont-ils devenir alors ?
Je n'en sais franchement rien. Le problème pour nous, pour le moment, c'est de leur assurer des conditions de séjour décentes. Nous essayons de travailler dans ce sens avec la commune d'Agadez et le gouverneur de cette région.
Mohamed Bazoum, vous êtes ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Plus de 20 leaders de la société civile sont en prison à Niamey depuis 2 mois. Pourquoi ces privations de liberté ?
Non, ils ne sont pas 20, ils sont 8. Ils sont en prison dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Alors en effet, plusieurs d'entre eux sont inculpés d'organisation et de participation à une manifestation interdite. Mais le droit de manifester n'est-il pas reconnu au Niger ?
Il est reconnu, sauf qu'il est encadré en effet par une loi. Et lorsque j'ai vu la levée de boucliers consécutive à leur arrestation, j'ai compris que dans leur esprit, à eux aussi, ils devaient être considérés comme des personnes intouchables et au-dessus de la loi. Ce qui était une erreur. Je pense que nous allons revenir désormais à des pratiques de l'exercice du droit à la manifestation conforme aux exigences de l'ordre telles que définies par les lois et les règlements pertinents à cet effet.
À l'origine, la société civile voulait manifester contre la loi de finances qu'elle qualifiait d'antisociale. Le dialogue ne vaut-il pas mieux que la prison ?
Je ne pense pas qu'un État est tenu d'engager un dialogue sur une loi de finances avec des acteurs de la société civile. Dans le cas d'espèce, les dirigeants de la société civile, lassés d'avoir été autorisés à marcher chaque fois qu'ils en ont fait la demande, ont décidé de marcher le soir, ce qui n'est pas compatible avec les exigences du maintien de l'ordre et cela leur a été notifié. S'ils devaient ne pas être d'accord avec l'interdiction qui a été faite de leur manifestation le soir, ils devaient toucher la justice pour lui poser la question de savoir si le maire de Niamey avait le droit d'interdire leur marche. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient convaincus qu'une marche le soir en étant interdite leur donne l'occasion de l'attention qu'ils ont toujours recherchée et peut-être va-t-elle leur ouvrir les portes pour les perspectives de l'insurrection dont ils ont toujours rêvé. Voilà de quoi il s'agit.
Monsieur le ministre, merci.